Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
On va lire les textes sur lesquels reposeront la prédication. Le texte principal, premièrement, qui se trouve tout au début de notre Bible, en Genèse 3. Et on va lire les versets 1 à 10, Genèse chapitre 3, depuis le verset 1 jusqu'au verset 10. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu. Je me suis donc caché. » Et puis un texte complémentaire, on va dans le premier évangile, l'évangile selon Matthieu, au chapitre 4, on lira les versets 1 à 11. Matthieu, chapitre 4, les versets 1 à 11. Matthieu, chapitre 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « D'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. » Voilà, et il est temps pour nous de nous mettre à l'écoute de la prédication, et on a la joie que notre cher frère et ancien Roland nous apporte le message de ce matin. Il est temps pour les enfants de rejoindre l'école du dimanche et la garderie. Et Roland, bienvenue, merci de t'être préparé.
Merci pour vos prières pour prédicateurs. La parole de Dieu nous fournit ici, en Genèse 3, 1 à 10, le récit de l'entrée du péché dans le monde et ses conséquences. S'agit-il d'un récit historique ? Bien sûr que oui. Genèse 2, qui précède, est historique, nous donnant le détail de la création du premier homme, Adam, et de sa femme. Genèse 4, qui suit, est historique, nous décrivant la naissance de Caïn et Abel chez ce premier couple, comment Caïn tua Abel, puis quelle fut la descendance de Caïn. Genèse 3, entre deux, qui concerne les mêmes personnes, n'est donc pas une légende. Dans la foi que les apôtres nous ont transmise, eux qui sont appuyés sur Jésus-Christ, les fondements de l'édifice que Dieu construit, Adam et Jésus-Christ sont sans contredit des personnes historiques. À tel point que l'œuvre salutaire du second, Jésus-Christ, redresse ce que le premier a renversé. Selon ce que nous rapporte 1 Corinthiens 15, le verset 22, « Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Si la chute d'Adam et en lui de toute l'humanité n'avait pas de réalité historique, la vie nouvelle en Christ ne serait qu'une belle illusion. Le fait qu'un animal parle ne nous autorise pas à rapprocher le récit de Genèse 3 avec les jolies histoires pour les enfants, qui, même si elles comportent une bonne morale, sont pourtant imaginaires. Le récit biblique que nous examinons n'a rien à voir avec Babar. Il y a un grand sérieux dans ce texte. Son but n'est pas de nous divertir, mais de nous donner des certitudes pour alimenter nos convictions sur la base de faits historiques. Il s'agit de la réalité solennelle de la désobéissance honteuse de l'homme au tout début de la création. Avez-vous remarqué que le verset fourni tout à l'heure à l'appui de l'historicité d'Adam fait de Genèse 3 un récit qui nous implique tous ici, et quiconque a vécu ou vivra sur cette terre, et comme tous meurent en Adam, avons-nous lu et entendu dans la citation de 1 Corinthiens 15, 22. Il y a une relation double entre Adam et l'humanité. L'humanité a sa source naturelle en Adam, puisque nous descendons tous de lui. Et l'Écriture ajoute qu'il est aussi notre chef représentatif, notre représentant légal. C'est pourquoi, en raison de ce principe de représentation, Dieu prononce un verdict de nature juridique contre ceux qui sont comptés comme étant en lui, car ceux-ci partagent la culpabilité qui découle de sa faute. Adam a marché avec le Seigneur, puis s'est rebellé. Pour notre part, nous n'avons jamais marché en pleine communion avec Dieu. Nous sommes pécheurs dès le début de notre vie. Cette situation énigmatique dont nous percevons chaque jour crûment la réalité, tant dans notre vie que dans celle de tout homme, découle des événements décrits ici en Genèse 3. Examinons donc étape par étape le récit qui nous a été lu, Genèse 3, 1 à 10. Et ce sera notre premier point. Tactique du diable. Premier point, tactique du diable. Beaucoup de documents anciens admettent que le monde n'a pas toujours été comme nous le voyons maintenant. De manière générale, dans l'humanité, il y a cette conscience, mais on ignore le pourquoi du changement intervenu. Notre récit est le seul qui nous donne l'explication de notre réalité aliénée de Dieu, étrangère à une relation harmonieuse avec lui. Trois ou quatre passages du Nouveau Testament font référence à Genèse 3, sans pourtant nous décrire dans quelles circonstances le mal a fait irruption dans l'humanité et dans toute la sphère d'autorité que Dieu lui a confiée. Ainsi, méditons sur Genèse 3 avec beaucoup de respect et d'étonnement. Et comprenons que si ces événements ne sont présentés qu'une seule fois dans l'Écriture, c'est que la Bible n'a pas pour but de s'étendre longuement sur l'irruption du péché, mais bien plutôt sur les moyens que Dieu a donnés pour sauver les pécheurs, les réconcilier avec lui. Au verset 1, alors que l'homme et la femme sont comblés dans la très bonne création de Dieu et dans leur état d'entière pureté, ne connaissant aucune honte, le serpent apparaît de façon assez abrupte. Plus loin dans ce chapitre, la forte condamnation qu'il reçoit. Il est maudit entre tout le bétail. Il va devoir marcher sur son ventre et manger de la poussière chaque jour. Et finalement avoir la tête écrasée par la descendance de la femme. Cela nous montre qu'il est une figure majeure du drame et qu'il est en fait l'agent coupable de Satan, que l'Apocalypse nomme par deux fois le serpent ancien qui est le diable et Satan. Apocalypse 12, verset 9 et 20, verset 2. Il se sert de la créature de Dieu la plus rusée pour entraîner l'homme dans la rébellion, d'une manière subtile, en louvoyant par des moyens détournés qui visent à le corrompre dans son esprit puis dans son être tout entier. Satan aussi est une créature du monde invisible et selon 1 Timothée 4:4, tout ce que Dieu a créé est bon. Nous devons donc conclure qu'il y a eu, après le commencement, mais avant notre récit, une rébellion parmi les créatures célestes dont la Bible ne parle pas explicitement, mais seulement par déduction. Un serpent qui parle, voilà qui était bien étonnant, n'est-ce pas? Jusqu'ici, parmi les créatures visibles, seuls les humains qui avaient été créés à l'image de Dieu étaient doués de la parole, se servant de cette magnifique faculté pour communiquer profondément entre eux et avec leur Créateur. Dès cet instant, la femme et Adam qui était à ses côtés aurait dû se rendre compte que quelque chose d'anormal se passait. Observons le langage du serpent. Il est délibérément suspicieux à l'égard de Dieu, ambigu, fourbe. Dieu a-t-il réellement dit ? Sous-entend très fort, Dieu vous priverait-il de quelque chose ? Et la suite, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Sème le doute sur la portée de l'interdiction de Dieu dans son commandement à l'homme. Le contraste est immense entre la question tordue du malin et le précepte divin donné à Adam en Genèse 2, versets 16 et 17. Je vous le relis, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu est entièrement bon et généreux. Il l'a prouvé dans ses actes créateurs époustouflants. Dans son commandement, la clause restrictive n'est nullement une limitation de sa bonté, mais exprime comment sa créature, placée au sommet de la création, manifeste son amour respectueux à son glorieux Créateur. Manifestement, la question de Satan nous prouve qu'il a entendu l'ordre que Dieu a donné à Adam. Mais il déforme la parole de Dieu de façon à se moquer de lui, en mettant en doute sa bonté. Dans le mal, c'est Dieu qui est toujours visé en premier. David, après son adultère et son meurtre, en a très bien conscience. Il confesse « J'ai péché contre toi seul ». Psaume 51, verset 6. Au verset 2 et 3, nous voyons la femme poursuivre la conversation avec le diable, malgré les évidences de ses intentions coupables envers Dieu. Elle lui parle de leur manière d'agir, elle et son mari, plutôt que de couper court et de lui faire entendre à nouveau les paroles exactes, ni plus ni moins, du commandement de Dieu. C'est cela que le Seigneur Jésus a fait dans semblable situation. Chaque fois, à la tentation du diable, il répondit « Il est écrit », citant exactement l'Écriture, et de plus, lui ordonnant finalement de s'en aller. « Retire-toi, Satan !» Pareil, quand Pierre contestait la nécessité de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection à Jérusalem, le Seigneur lui dit « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu 16, 23. Nous n'avons jamais l'avantage quand nous nous mettons à converser avec le malin. Si cela fut vrai pour la femme, dans sa situation d'innocence, à combien plus forte raison, nous qui sommes pécheurs, devons-nous éviter scrupuleusement cette mauvaise posture qui, en général, a lieu dans notre fort intérieur. Paul avertit les Corinthiens, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. 2 Corinthiens 11, verset 3. Dès que Satan constate que la femme est à son écoute, il en vient à contester la parole de Dieu très explicitement au verset 4 et 5, en affirmant « Vous ne mourrez pas du tout ». Il ridiculise d'abord la souveraineté de Dieu. Il nie que Dieu est lumière, qu'il est vérité, qu'il a la volonté et le pouvoir d'exécuter ce qu'il a déclaré. Puis, il conteste son autorité de créateur et seigneur qui a seul le droit de décider du bien et du mal, qui est seul autonome. Il pousse Adam et sa femme à s'affranchir de leur dépendance de l'Éternel Dieu qui les comble et à convoiter sa place de roi et ses compétences de souverain. Satan n'est pas la cause de la désobéissance. Sa tentation en constitue seulement une occasion. Il n'avait pas le pouvoir de les obliger à le suivre dans sa révolte. En Éden, il y avait déjà un choix et la liberté de choix. Ils ont choisi de faire le mal en position de créature libre. Sans transition, sans aucune explication, le texte passe de la tentation des versets 4 et 5 à l'acte transgresseur du verset 6. En fait, la moindre explication servirait déjà de justification au péché. Nous sommes là devant le mystère le plus incompréhensible à propos duquel l'Écriture ne nous dit pas un seul mot. Ce qui caractérise le monde maintenant, selon 1 Jean 2, 15 et 16, et qui ne vient pas du Père, c'est-à-dire la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, a pris place dans le cœur de la femme et de son mari qui était avec elle. Leur nature ayant changé, ils commettent l'acte interdit qui correspond à un rejet de la souveraineté de Dieu, ainsi que de sa sagesse, de sa justice, de sa bonté et de sa vérité. Dieu est vérité. Tout ce qui se rebelle contre lui est mensonge. Le Seigneur dit du diable en Jean 8, 44 qu'il est le père du mensonge. Un des aspects de sa fausseté que notre récit met aussi en évidence est le fait qu'il ne respecte pas l'autorité que Dieu a donnée à Adam en le créant en premier. Le rusé serpent inverse l'ordre créationnel et s'attaque à la femme. Mais à peine plus loin dans le même chapitre, Dieu, dans son enquête sur ce qui vient d'arriver, commence par Adam, faisant de lui, en tant que chef de sa femme, le premier responsable d'avoir mangé de l'arbre dont il lui avait défendu de manger. dans les versets 7 à 10, l'homme prend conscience de la réalité de son péché, sa honte, sa culpabilité, sa peur de Dieu, sa fuite dans une cachette, manifeste qu'un changement est intervenu dans la constitution religieuse de l'homme. En raison de sa désobéissance, il est maintenant enclin à haïr Dieu et son prochain. Et il expérimente la malédiction de Dieu. La suite du chapitre 3 mentionne en particulier trois grandes conséquences imposées par l'Éternel suite au péché de l'homme. Premièrement, la mort. La parole de Dieu est fiable. Adam retournera à la poussière et la mort passera sur tous les hommes parce que tous ont péché. Ce que dit Romains 5, verset 12. Il est aussi question d'un éloignement relationnel, de relations distendues au sein du couple et entre Dieu et l'humanité. L'homme est chassé du magnifique jardin planté exprès pour lui. Un lieu béni où Dieu se promenait, ce qui en fait en faisait un temple. Plus d'accès à l'arbre de vie. Troisièmement, la vie quotidienne est marquée par la douleur et les difficultés. Elle devient pénible, d'abondante qu'elle était avant l'entrée du péché dans le monde. Maintenant, le sol est maudit à cause d'Adam. Gagner son pain se fait à la sueur de son front, vu l'entrave des chardons et des broussailles. Les grossesses sont rendues très pénibles et les accouchements se font avec peine. Rien de ce que le diable avait fait miroiter, rien n'est devenu réalité. Toutes les sanctions du jugement de Dieu sont le lot quotidien de toute l'humanité et correspondent exactement au monde que nous expérimentons jour après jour. Donc, si une chose ne peut être minimisée, c'est bien le péché, la désobéissance à Dieu, la violation de sa loi. Romains 12, 9 nous dit « Ayez le mal en horreur ». Oui, quel gâchis! Comment en sortir? Ce sera notre deuxième point. Tactique de Dieu. Deuxième point, tactique de Dieu. Ecclésiaste 7, verset 29 résume bien la situation. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché bien des subtilités. Le mal, la mort ne sont pas constitutifs de la nature humaine. Le péché a son origine chez Satan, le serpent ancien, qui par sa ruse, sa subtilité, réussit à entraîner Adam et toute l'humanité dans la désobéissance, avec la terrible condamnation de la mort physique et la mort spirituelle, qui est la rupture éternelle de la communion avec Dieu. Désormais, comme dit l'apôtre Jean, le monde entier est au pouvoir du malin. 1 Jean 5, 19. En voyant avec quel mépris et quelle arrogance le diable parlait du Dieu créateur de toutes choses dans son dialogue avec la femme, On peut bien penser qu'il a crié, victoire. Mais il l'a fait beaucoup trop vite. Car tout de suite dans le jardin d'Éden, dès après qu'Adam et sa femme eurent mangé du fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'Éternel Dieu dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Genèse 3,15. Et Dieu, qui ne ment pas et qui fait l'histoire, ne manqua pas d'accomplir ce qu'il avait annoncé. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous apprend en Galates 4,4 que lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi. Tiens, tiens, voilà que le divin Fils éternel de Dieu naît d'une femme. Très intéressant. L'évangile de Luc donne le nom de cette femme, Marie. Et quand elle demande à l'ange qui la visite, comment, puisqu'elle ne connaît pas d'homme, elle donnera naissance au Fils du Très-Haut, elle reçoit pour réponse « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Luc 1, 35. Plus encore, quelle stupéfaction de lire dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 20, qu'il a été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps. Et quand Jean-Baptiste, le voyant venir à lui, s'écrie « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », on comprend qu'il est bien le Fils de Dieu qui est apparu afin de détruire les œuvres du diable, 1 Jean 3, 8. Autrement dit, pour lui écraser la tête. Dans le chapitre clé concernant la résurrection, en Corinthiens 15, il est appelé le dernier Adam. Lisons quelques versets de Romains 5 pour bien saisir à quel point ce dernier Adam, en nouveau chef représentatif, répond de manière surabondante par le don d'un salut gratuit à la ruine que le premier Adam, notre chef représentatif, a fait venir sur nous par sa désobéissance. Lisons Romains 5, les versets 17 à 19. 17 à 19. Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule faute la condamnation s'étend à tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Vous voyez, la mort régnait sur nous tous par la faute d'un seul, mais ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice règnent désormais dans la vie par le seul Jésus-Christ. Un seul acte de justice de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa mort sur la croix pour subir le châtiment des pécheurs, annule la condamnation qui provenait d'une seule faute, celle d'Adam. Rendu pécheur par la désobéissance du premier Adam, l'obéissance parfaite du dernier Adam justifie beaucoup d'hommes, autrement dit, met à leur compte un statut de justice légale. Verset 19 que nous venons de lire. Le principe de représentation que notre Dieu juste et saint a établi est valable pour le premier, tant pour le premier que pour le dernier Adam. En tant qu'homme, nous sommes tous unis au premier Adam, tous représentés par lui, donc tous sous la condamnation, conséquence de sa faute. Mais le même principe sert aussi à notre salut. La condition, c'est d'être unis au dernier Adam, être unis à Jésus-Christ. Cela nous place devant une question cruciale concernant notre éternité. Si nous demeurons unis au premier Adam, elle sera une éternité sous le règne de la mort. Une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa face. Mais plutôt, saisissons le dernier Adam, comme le fit l'apôtre Paul. À cause de Jésus-Christ, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Philippiens 3, 8 et 9. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.